La parole du jour avec le Père Willem.
Les mystiques chrétiens pour aujourd'hui, voici Maître Eckhart, l'empreinte du désert. De Maître Eckhart, le thuringien, on a pu dire avec raison qu'il n'est rien de moins que le Dante allemand. Parallèle glorieux et nullement surfait, qui pourrait s'enrichir du nom prestigieux de Raymond Lull, le Majorquin. Tous trois vécurent en effet à la même période, fin du XIIIe siècle, début du XIVe, et plus d'un trait les rapproche dans la diversité de leurs génies religieux, nationaux et littéraires, cependant que chacun d'eux assuma un rôle fondateur largement comparable à l'égard de langues qui contribuèrent à développer dans leurs possibilités expressives. Qui l'allemand, qui l'italien, qui l'espagnol, ainsi se modelait déjà l'espace culturel d'une Europe enracinée dans une double tradition, oui, une double tradition latine et germanique. Dante ne quitta jamais la scène littéraire. Lull, qui se nommait lui-même Raymond le Fou, reste à redécouvrir. Quant à Descartes, il semble bien être de retour et suscite depuis quelque temps un surcroît d'intérêt, pour ne point parler d'un certain engouement. Il est vrai que son œuvre est d'une telle ampleur qu'elle a de quoi séduire logiciens et philosophes, aussi bien qu'adeptes d'une expérience spirituelle. C'est bien au-delà des limites du christianisme dans lesquelles Eckhart voulu toujours se situer, malgré les soupçons d'hérésie qui l'accompagnèrent au long des siècles, après avoir motivé un procès de son vivant et une condamnation, malheureusement, par les autorités ecclésiastiques après sa mort, en sorte que son œuvre, qui attend encore une réhabilitation dans sa communauté d'origine, ne cesse d'être évoqué par les tenants d'autres sagesses orientales, surtout, même s'ils ne sont retenus de lui que quelques bribes de doctrines détachées de l'ensemble qui leur confère sens et rigueur. Maître Eckhart fut à la fois métaphysicien et mystique de grande venue, professeur renommé et prédicateur infatigable, poète sublime et homme d'action. Il enseigna par deux fois à la prestigieuse Université de Paris et engagea la rédaction en latin d'un ouvrage savant dont il ne reste que l'architecture grandiose et quelques fragments. Il fut à Cologne l'un des successeurs d'Albert le Grand dans la charge de régent des études au Studium General, établi par les dominicains de cette ville. Il fut aussi administrateur et responsable apprécié dans le cadre de son ordre religieux et surtout, il a eu la charge de gérer, dans le premier quart du XIVe siècle, nombre de monastères de moniales dominicaines. C'est principalement à leur intention, selon toute vraisemblance, qu'il prononça au long de ces années les fameux sermons allemands que l'on transcrivit et colporta avec passion et que seule la critique la plus récente a pu, 7 siècles ou presque après leur naissance, fixer dans une version assurée. C'est surtout dans ces textes que nous tirons des éléments d'une présentation mettant en lumière les principaux thèmes de ces doctrines de vie. Pour être fidèle à une méthode dont Maître Eckhart est coutumier, il importe d'aller d'un coup à l'essentiel et d'exprimer une première fois ce qui constitue le fond de sa vision des choses qu'il propose ordinairement, sans se préoccuper des chemins d'accès vers cette réalité sublime, misant sur la puissance de vie que porte en elle-même son énonciation nue. Véritable flèche au centre de la cible, tirée par le poète Archer dans les 8 courtes strophes qui composent son poème, le seul que l'on connaisse de lui, mais qui suffit pour qu'on le compte parmi les plus grandes de cette période féconde en de telles productions. Sur ce point déjà, en dépit de la brièveté de ce texte de référence, Eckhart part et doit être compris, disons rapproché, de Jean de la Croix, le carme espagnol du XVIe siècle, et plus encore peut-être d'Angelus Silesius, le franciscain allemand du XVIe siècle. Nous lisons ce texte, ce premier texte, ce poème. Au commencement, au-delà du sens, là où est le verbe, ô le trésor si riche, où commencement fait naître commencement, ô le cœur du Père, d'où, à grand joie, sans trêve flue le verbe. Et pourtant, ce saint-là, en lui garde le verbe. C'est vrai, Dieu, dans deux fleuves, fleuves d'amour de feu, les deux le lien, aux deux communs, coule le très suave esprit, à mesure très égale, inséparable. Les trois sont un. Quoi, le sais-tu? Non, lui seul sait ce qu'il est. Œuvre inépuisable. Elle est pour tous les temps, pour chacun des jours. Ainsi, ces quelques réflexions, tant d'autres paroles auraient dû sans doute être sondées. Ce qui fait sa vie parmi d'autres. D'autres réalisations, ce n'est que l'œuvre d'un jour. Nous avons naguère prié pour un maintenant. Oui, maintenant. Aujourd'hui, nous prions pour une petite chose, seulement pour un soir. Une petite chose. S'ouvrir. Alors comment gagner cette plénitude qui permet de déchiffrer réellement Dieu dans les choses du temps? L'homme qui entend y parvenir, répond Eckhart, doit être comme une étoile du matin. Être une étoile du matin, toujours présent à Dieu, toujours près de lui, également proche, élevé au-dessus de toutes les choses terrestres, et être un adverbe, près du verbe. Il n'est donc pour cela que de se tenir simplement dans une présence absente. Une possession, dépossession. Un homme droit n'a pas besoin de Dieu. De ce que je possède, je ne trouve pas le besoin. Conclusion la plus forte, on peut bien concevoir la chaleur sans le feu et la lumière sans le soleil, mais on ne peut concevoir Dieu sans l'âme, ni l'âme sans Dieu, tant ils sont un. Voilà Descartes. Descartes qui est notre contemporain, comme l'est la petite Thérèse de Lisieux. Ils ont fait l'expérience du néant, l'expérience de l'épreuve de la foi. Ils ont découvert dans ce néant une présence indicible. C'est une présence qui est au-delà du ressenti. C'est là la naissance qui épanouit l'être profond que nous sommes dans ce Verbe de Dieu qui a pris chair et qui confie à chaque être humain la responsabilité de le rendre présent par ses actes, ses paroles, son amour et sa joie aujourd'hui.